Joseph Conrad, L'officier noir, chapitre 1er. Voilà des années de cela, on voyait plusieurs navires faire à la fois leur chargement à l'estacade des docks de Londres. Je parle des environs de 1880, du temps où Londres comptait une foule de beaux voiliers dans ses bassins, quoique moins de belles constructions dans ses rues. Les navires à l'estacade avaient belle apparence. Ils étaient amarrés l'un derrière l'autre, et le saphir, le troisième en commençant par le bout, était un tout aussi bon navire que les autres, ni plus ni moins. À l'estacade, chacun avait naturellement, comme tout navire au bassin, son second à bord. Les policemen de service aux portes les connaissaient tous de vue, sans être pourtant capables de dire immédiatement à quel navire appartenait tel ou tel d'entre eux. En fait, les seconds de tous ces navires amarrés dans les docks de Londres étaient, comme la majorité des officiers de la marine marchande, des gens solides, travailleurs, résolus, peu romantiques d'allure, qui appartenaient à différentes classes de la société, mais chez qui l'empreinte professionnelle effaçait les caractères individuels d'ailleurs peu marqués. Ceci était vrai de tous, à l'exception toutefois du second du saphir. Les policemen ne pouvaient avoir la moindre hésitation à son sujet. Celui-là avait une marque distinctive. Ils le reconnaissaient de fort loin dans la rue, et lorsqu'il suivait l'estacade le matin pour se rendre à son navire, les ouvriers des docks et les débardeurs, roulant les balles et les caisses sur leur diable, se disaient entre eux « Voilà l'officier noir qui s'amène ». C'était le nom que lui donnaient ces hommes simples, incapables d'apprécier à sa juste valeur la dignité d'allure de cet homme. Il va sans dire que M. Banter, le second du saphir, n'était pas noir. Il n'était pas plus noir que vous et moi, et assurément tout aussi blanc que n'importe quel second dans tout le port de Londres. Il avait cette sorte de teint qui ne se hâle pas facilement. Et je savais mieux que personne que le pauvre garçon venait d'être un mois malade juste avant d'embarquer sur le saphir. Vous comprendrez par là que je connaissais Banter. Pour sûr que je le connaissais. Et qui plus est, je savais son secret, le secret qui... Mais j'y viendrai plus tard. Pour en revenir à l'apparence particulière de Banter, c'était simplement le préjugé de l'ignorance qui faisait dire au chef arrimeur, comme je l'entendis un jour, « Je vous parie que c'est un étranger. » Un homme peut tout de même avoir les cheveux noirs sans qu'on le prenne pour un moricaud. J'ai connu un marin venu de l'ouest de l'Angleterre, maître d'équipage d'un fin voilier, qui vous avait l'air plus espagnol que tous les Espagnols que j'ai jamais vus. Il avait l'air d'un Espagnol descendu d'un cadre. Des autorités compétentes assurent que cette terre est destinée à devenir, en fin de compte, l'héritage des gens à cheveux noirs et aux yeux bruns. Il semble bien que d'ores et déjà l'humanité en général se compose surtout de gens à cheveux plus ou moins bruns. Toutefois, ce n'est que lorsque vous en rencontrez un que vous remarquez combien les gens à cheveux noirs, noirs comme de l'ébène, sont rares. Il portait également toute sa barbe, taillée mais d'une bonne longueur tout de même, et il avait de gros sourcils en broussailles. Ajoutez à cela des yeux gris bleus, qui, chez un homme blond, n'auraient rien eu d'extraordinaire, mais qui formaient avec ce sombre entourage un contraste saisissant, et vous comprendrez que Banter pouvait difficilement passer inaperçu. N'eût été la réserve générale de ses manières, on lui eût attribué une nature violemment passionnée. Il n'était assurément pas tout jeune, mais si l'expression « dans la force de l'âge » a un sens, elle s'appliquait exactement à lui. Il était, en outre, d'assez grande taille et plutôt mince. En l'apercevant du haut de sa dunette, infatigablement attentif à sa fonction, le capitaine Ashton du clipper Elsinore, amarré juste devant le saphir, déclara un jour à un de ses amis « Jones a déniché quelqu'un pour bourlinguer son navire à sa place. » Le capitaine Jones, le patron du saphir, qui avait commandé des navires depuis nombre d'années, était bien connu, mais il n'était ni très respecté, ni très aimé. Parmi ses collègues, on ne s'occupait guère de lui, ou bien on le plaisantait. Le capitaine Ashton, qui était d'un naturel cynique et taquin, ouvrait généralement le feu. Ce fut lui qui se permit la mauvaise plaisanterie d'affirmer un jour, devant d'autres capitaines, « Jones trouve qu'on devrait empoisonner tous les marins au-dessus de 40 ans, à l'exception des capitaines pourvus d'un commandement. Cela se passait dans un restaurant de la cité où plusieurs capitaines bien connus prenaient ensemble leur repas. Il y avait là le capitaine Ashton, vermeil et jovial, avec son ample gilet blanc, une rose jaune à la boutonnière. Le capitaine Bell, vêtu d'un paletot-sac, maigre, blême, ses cheveux gris ramenés derrière les oreilles, et qui, bien que ne portant pas de lunettes, avait l'air d'un étudiant ascétique, d'un homme d'études doux et sédentaire. Le capitaine Hals, un vieux loup de mer aux doigts poilus, vêtu de serge bleu, et qui portait en arrière de la tête un chapeau rond qui découvrait son front écarlate. Il y avait là aussi un très jeune capitaine, avec une petite moustache blonde et des yeux graves, qui ne disait rien et souriait légèrement de temps à autre. Le capitaine Jones, stupéfait, leva ce regard perplexe et crédule, qui, avec un front bas et coupé de rides transversales, ne formait pas un ensemble particulièrement intelligent. Impression que ne corrigeait en aucune façon la forme légèrement pointue de sa tête chauve. Tous se mirent à rire. Le capitaine Jones finit par esquisser un sourire aigre et tenta de se défendre. C'était bien facile de plaisanter, mais de nos jours, où il faut, pour qu'un navire rende, aller de l'avant aussi bien en mer que dans le port, la mer n'est pas faite pour les vieux. Seuls des jeunes gens ou des hommes, dans la force de l'âge, pouvaient répondre aux exigences modernes d'une activité précipitée. Il n'y avait qu'à voir ce qui se passait dans les grandes compagnies d'armement. Presque toutes se débarrassaient des gens qui montraient les moindres signes d'âge. Quant à lui, en tout cas, il ne voulait pas d'un homme âgé à son bord. À dire vrai, le capitaine Jones ne faisait pas en cela montre d'une grande singularité. À cette époque, quantité de marins auxquels on ne pouvait rien reprocher que de commencer à grisonner, usaient les semelles de leur dernière paire de souliers sur les pavés de la cité, à chercher vainement un emploi. Le capitaine Jones ajouta, avec une sorte d'innocente mauvaise humeur, que de là à vouloir empoisonner les gens, il y avait encore de la marge. La réponse semblait décisive, mais le capitaine Ashton ne voulut pas démordre de sa plaisanterie. « Oh oui, je suis persuadé que vous le feriez. Vous avez dit exactement « inutile ». Comment se débarrasser des gens inutiles ? Vous avez bon cœur, Jones. Je suis sûr qu'à la réflexion, vous admettriez qu'on les empoisonne sans douleur. » Le capitaine Bell pinça ses lèvres minces et sinueuses. « Pour en faire des fantômes, » suggéra-t-il laconiquement. À ce mot de fantôme, le capitaine Jones, intimidé, prit cet air perplexe, sournois et antipathique qui lui était familier. Le capitaine Ashton cligna de l'œil. « Oui, vous auriez peut-être alors une chance de communiquer avec le monde des esprits. Les fantômes des marins doivent sûrement hanter les navires. Il y en aurait sûrement qui viendraient rendre visite à un vieux camarade de bord. » Le capitaine Bell déclara sèchement « Ne lui donnez pas de pareils espoirs, c'est vraiment cruel. Il ne verra rien du tout. Vous savez bien, Jones, que personne n'a jamais vu de fantôme. » À cette intolérable provocation, le capitaine Jones sortit de sa réserve. Sans la moindre perplexité, dans un mouvement de crédulité passionnée qui faisait étinceler ses petits yeux ordinairement mornes, il exhiba une quantité d'exemples authentifiés. Il y en avait des livres et des livres. C'était pure ignorance que de nier les apparitions surnaturelles. On en publiait des cas tous les mois dans un journal spécial. Le professeur Cranks voyait journellement des fantômes. Et le professeur Cranks était quelqu'un, assurément. Un des hommes de science les plus importants de notre temps. Et il y avait aussi ce journaliste, comment s'appelait-il donc, auquel rendait visite un fantôme de jeune fille. Il imprimait dans son journal les choses qu'elle lui disait. Et osait dire après cela qu'il n'y a pas de fantômes. On les a même photographiés. Quelle preuve de plus voulez-vous ? Le capitaine Jones était indigné. Les lèvres du capitaine Bell se pincèrent, mais Ashton se mit à protester. « Je vous en prie, ne le laissez pas continuer. À propos, Jones, qu'est-ce que c'est que ce pirate chevelu que vous avez maintenant comme second ? Personne dans les docks ne semble l'avoir jamais vu. » Le capitaine Jones, calmé par le changement de conversation, répondit simplement que c'était Willy, le marchand de tabac du coin de Fenchurch Street, qui le lui avait envoyé. Willie, sa boutique, et même la maison de Fenchurch Street, où elle se trouvait, ont maintenant disparu, si je ne me trompe. En ce temps-là, Willie, tout en promenant dans son visage empâté un regard las et distrait, fournissait de tabac la plupart des longs courriers qui partaient du port de Londres. À certaines heures de la journée, sa boutique regorgeait de capitaines. On en voyait d'assis sur les barils, d'affalés le long du comptoir. Plus d'un jeune homme trouvait là l'occasion d'un coup d'épaule. Plus d'un avait déniché un emploi dont le besoin se faisait sentir, rien qu'en entrant acheter 10 sous de tabac au bon moment. Même le commis de Willie, un garçon roux, à l'air délicat et indifférent, vous passait à travers le comptoir, avec votre boîte de cigarettes, un renseignement utile, dans un murmure, sans même remuer les lèvres. « La Bellonne, South Dock. » On demande un lieutenant. Vous pouvez arriver à temps en vous dépêchant. Et on y filait. « Ah, c'est Willie qui l'a envoyé, » fit le capitaine Ashton. « C'est un garçon qui a belle allure. » Si on lui mettait une ceinture rouge autour de la taille et un mouchoir rouge autour de la tête, il aurait tout à fait l'air d'un de ces boucaniers qui faisaient sauter le pas aux hommes et emmener les femmes en captivité. Veillez, Jones, à ce qu'il ne vous coupe pas le cou et ne file avec votre saphir. D'où débarque-t-il donc? Le capitaine Jones, après avoir levé son habituel regard crédule, fronça les sourcils et déclara placidement que ce garçon avait connu des jours meilleurs et qu'il s'appelait Banter. Il a commandé un navire de Liverpool, le Samaria, il y a quelques années. Il l'a perdu dans l'océan Indien et on l'a suspendu du commandement pendant un an. Depuis lors, il n'a pas pu en retrouver un. Il a frappé à toutes les portes des compagnies qui font l'Atlantique. Ça explique que personne ne le connaisse ici, déclara en manière de conclusion le capitaine Ashton, tout en se levant de table. Après déjeuner, le capitaine John se rendit au dock. Il était petit et légèrement bancal. Son aspect n'inspirait aucune estime à la majorité des gens, mais ses armateurs ne devaient pas être du même avis. Il avait la réputation d'un commandant peu agréable, méticuleux au possible, toujours ennuyé de quelque chose, toujours grognant. Ce n'était pas un homme à avoir une fois pour toutes une bonne discussion avec les gens, mais à leur dire des choses désagréables sur un ton pleurard, un homme capable de rendre la vie intenable à un officier pour peu qu'il le prît en grippe. Ce même soir, j'allai voir Banter à bord et j'envisageais avec lui les perspectives de son voyage. Il s'était fort assagi. Je suppose qu'un homme qui garde un secret dans son cœur doit perdre de son animation naturelle. Une autre raison m'empêchait d'attendre de Banter beaucoup d'entrain. Il y avait une chose qui le préoccupait beaucoup depuis quelque temps, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Le capitaine Jones avait passé son après-midi à bord et n'avait cessé de tourner autour de son second d'une façon qui avait exaspéré Banter. « Qu'est-ce que cela signifie ?» me demanda-t-il avec une irritation contenue. « On croirait qu'il me soupçonne d'avoir volé quelque chose et qu'il essaye de savoir dans quelle poche je l'ai mis. Ou que quelqu'un lui a dit que j'ai une queue de singe ?» et qu'il veut savoir comment je m'arrange pour la dissimuler. Je n'aime pas beaucoup qu'on s'amène comme cela en tapinois derrière mon dos, plusieurs fois dans le même après-midi, et qu'on me regarde ainsi par-dessus mon épaule. C'est une nouvelle sorte de jeu de cache-cache ou quoi? Je ne trouve pas ça drôle. Je ne suis plus un gamin, sacré nom d'un chien. Je l'assurai que si l'on s'en allait raconter au capitaine Jones que lui, Banter, était adorné d'une queue de singe, John s'arrangerait pour le croire de façon mystérieuse. Certainement, il était soupçonneux et crédule à un point inimaginable. Il était capable de tout croire, de soupçonner un homme de n'importe quoi, et de s'en aller ruminer la chose, de la tourner et la retourner dans sa tête, avec la plus abominable et la plus géniale perplexité. Et en fin de compte, il s'arrêterait à l'opinion la plus mesquine possible, et suivrait la ligne de conduite la plus mesquine, par une sorte de génie naturel. Panther me raconta aussi que ce mesquin personnage n'avait cessé de trottiner sur ses petites jambes torses d'un bout à l'autre du navire, en le traînant avec lui pour se plaindre d'un tas de détails sans importance. Il n'avait cessé de trottiner sur le pont comme un insecte, comme un cancrelat, et avec moins de vivacité toutefois, sacrédié. C'est ainsi que s'exprima avec un violent dégoût ce garçon réservé qu'était Panther. puis, sans se départir de son calme habituel, que rendait sinistre le froncement de ses gros sourcils noirs, il reprit « Et en outre, cet homme est fou. Il a essayé de se montrer sociable et n'a rien trouvé de mieux que de me faire les gros yeux et de me demander si je croyais aux communications avec l'au-delà. » Des communications avec... Je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Je ne savais que répondre. Un sujet des plus importants, Monsieur Banter, j'y ai beaucoup réfléchi. Si Jones avait vécu à terre, il eût été la victime toute désignée de soi-disant médiums. Ou même s'il en avait eu l'occasion entre deux voyages. Heureusement pour lui, lorsqu'il était en Angleterre, il vivait quelque part, assez loin, à Leytonstone, avec une sœur de 10 ans plus âgée et restée fille, une redoutable virago, 2 fois grande comme lui, et devant laquelle il tremblait. On prétendait qu'elle le menait tambour battant. Quant au penchant spirit de son frère, elle avait là-dessus ses idées. Ses penchants lui semblaient tout simplement sataniques. Elle avait déclaré, paraît-il, qu'avec l'aide de Dieu, elle empêcherait cet imbécile de se livrer aux démons. Il était hors de doute que l'ambition secrète de Jones était d'entrer en communication directe avec les esprits pour peu que sa sœur le laissât faire. Mais elle était inflexible. On m'avait même raconté que pendant ses séjours à Londres, il était obligé de lui rendre compte de la moindre dépense qu'il faisait sur l'argent qu'il emportait le matin et du moindre emploi de son temps. Et de plus, c'était elle qui tenait les cordons de la bourse. Panther avait bien été quelque peu extravagant dans son jeune temps, mais c'était un garçon de bonne famille. Il avait des ancêtres et un caveau de famille quelque part à la campagne, et de tels propos l'indignaient probablement à cause de ses propres morts. Ses yeux gris-bleus eurent un éclair de véritable férocité dans ce visage à barbe noire. Il m'impressionnait. On sentait une telle passion sous cette dédaigneuse indolence. Le toupet de cet homme, entrer en relation avec cette espèce de petit bout d'âme, ce serait vraiment une intrusion impudente. Il veut entrer. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une nouvelle sorte de snobisme ou quoi? Je ne pus me retenir de rire devant cette façon nouvelle d'envisager le spiritisme ou quelque nom qu'on donne à cette monomanie de fantôme. Panther condescendit à sourire, mais ce fut un sourire grave qui s'effaça rapidement. Un homme dans sa position presque tragique, pour ainsi dire, ne pouvait vraiment pas, vous comprenez? Il était vraiment très soucieux. Il était préparé à n'importe quel ennui au cours du voyage. On ne pouvait guère espérer de considération une fois à la merci d'un homme du genre de Jones. Un ennui est un ennui, et cela a une fin. Mais la pensée de se voir harcelé d'absurdes, de mesquines, de déprimantes histoires de fantômes, d'un bout à l'autre de la traversée jusqu'à Calcutta, et autant au retour, c'était vraiment une appréhension intolérable. Le spiritisme envisagé sous cet angle devenait véritablement un sujet grave, redoutable même. Pauvre garçon, nous ne pensions guère, lui et moi, qu'avant peu il aurait... Je ne pouvais toutefois le rassurer à cet égard. J'étais moi-même assez effrayé de la chose. Manter avait eu ce jour-là un autre ennui. Un maître de port s'était amené à bord, sous on ne sait quel prétexte, mais à ce que pensait Banter, poussé uniquement par une curiosité malsaine pour Banter. Après avoir quelque temps tourné autour du pot, l'homme s'était tout à coup hasardé à dire « Il me semble que je vous ai déjà vu quelque part, monsieur. Si seulement je savais votre nom, peut-être. » Banter, c'est ce qu'a de pire une existence qui renferme un secret, éprouva quelque inquiétude. Il était très possible que cet homme l'eût déjà vu auparavant, fâcheux avantage de son excellente mémoire. Quant à Banter, on ne pouvait pas lui demander de se rappeler le moindre commis des docks auquel il pouvait avoir eu affaire. Il coupa court à la remarque en se retournant vers l'homme et en utilisant cette impressionnante sévérité d'expression à laquelle contribuait son extraordinaire couleur de cheveux. « Je m'appelle Banter, monsieur. Cela dit-il quelque chose à votre faible intellect? Moi, je ne demande pas comment vous vous appelez. Quelqu'un qui vient tranquillement me dire en face qu'il n'est pas sûr de m'avoir vu cherche à se montrer impudent, ou bien n'est rien de plus qu'un simple ver de terre, monsieur. Oui, j'ai dit, un ver de terre, un malheureux ver de terre aveugle. » Ce brave Banter, c'était la seule chose à faire, Il mit littéralement l'homme hors du navire, comme si chacune de ses paroles avait eu la force d'un coup de poing. Mais l'homme fit preuve d'une obstination étonnante. Force lui fut bien de filer, cela va sans dire, devant la colère de Banter, sans articuler un mot, et en essayant de couvrir sa retraite sous un sourire gêné. Mais une fois sur le quai, il se retourna lentement et resta à considérer le navire. Il demeura planté là comme un pieu d'amarrage, absolument immobile, sans que ses yeux stupides clignassent plus que si c'eût été des hublots. Qu'aurait bien pu faire Banter? C'était assez désagréable. Mais il ne pouvait pourtant pas aller se cacher dans la caisse à biscuits. Il se contenta d'aller se placer derrière les haubans d'Artimon et de regarder l'individu tout aussi inflexiblement. Et ils restèrent ainsi, et je ne sais lequel des deux commença à sentir la tête lui tourner. Et sur le quai, l'homme, n'ayant rien sur quoi s'appuyer, se lassa le premier, agita un bras en signe qu'il abandonnait la partie, et il finit par s'éloigner. Banter me déclara qu'il était bien heureux que le saphir, cette perle des navires, ainsi qu'il le désignait avec aigreur, prit la mer le lendemain. Il en avait assez des docks. Je comprenais son impatience. Il s'était cuirassé contre tous les ennuis que ce voyage pourrait lui valoir, encore qu'il soit évident qu'il ne s'attendait guère à la singulière aventure qui lui était réservée, et bel et bien dans l'océan Indien, dans cette partie du monde précisément, où le pauvre garçon avait en même temps perdu son navire et sa chance, une fois pour toutes, à ce qu'il semblait. Quant au remords que pouvait lui inspirer une certaine action secrète de sa vie, ma foi, je comprends parfaitement qu'un homme d'une nature aussi nette que Banter n'en souffrit pas médiocrement. Quoique, entre nous, et sans vouloir faire montre de cynisme, on ne puisse nier que la crainte de se voir découvert entre pour une bonne part dans la composition du remords, même chez le plus noble d'entre nous. Ce n'est évidemment pas ainsi que je m'exprimais devant Banter, mais comme le pauvre garçon revenait là-dessus, je lui répondis que les plus honnêtes gens avaient eux-mêmes des reproches à se faire, et qu'en ce qui concernait son péché particulier, il ne le portait pas inscrit sur le visage au vu et au su de tout le monde, et qu'il n'avait pas à se mettre martel en tête à ce sujet. D'ailleurs, avant une douzaine d'heures, il serait en mer. Il me répondit que cette idée n'était pas sans le réconforter un peu, et il s'en alla passer avec sa femme cette soirée, cette dernière, la dernière avant plusieurs mois. En dépit des extravagances de sa jeunesse, Banter ne s'était pas trompé en se mariant. Il avait épousé une femme d'une très bonne famille, une vraie dame, et qui, en outre, était une très charmante femme. Quant à son courage, moi qui savais les temps difficiles qu'il avait traversés, je ne pouvais l'admirer assez. Un courage véritable, inébranlable, de chaque jour, dont une femme n'est capable que lorsqu'elle est de la bonne espèce, de ce que j'appellerais l'espèce sans peur. Ce départ affectait notre officier noir plus qu'aucun de ceux qui l'avaient précédé durant toutes ces années de malchance. Mais c'était une femme sans peur, et elle laissa paraître moins de trouble sur son charmant visage que ne le fit ce digne boucanier à cheveux noirs qui tenait l'emploi de second à bord du saphir. Peut-être cela tenait-il à ce que sa conscience était moins troublée que celle de son mari. Il va sans dire que sa vie à lui n'avait aucun secret pour elle. Mais la conscience d'une femme est quelquefois plus apte à découvrir de bonnes et valables excuses. Cela dépend aussi grandement de qui en a besoin. Ils avaient décidé d'un commun accord qu'elle ne viendrait pas jusqu'au bassin pour le voir partir. « Je me demande si vous avez la moindre envie de me voir », avait dit cet homme sensible, et elle n'avait pas ri. Banter était très sensible, et en fin de compte, il la quitta assez brusquement. Il arriva à bord en temps utile et fit l'impression habituelle sur le pilote à chapeau de paille défoncé qui sortit le saphir du bassin. L'homme de la rivière se montra fort poli envers cet imposant second. « Voudriez-vous parer une garde montante en filin-manille de 5 pouces, monsieur Banter ?»« Merci, monsieur Banter. » Le pilote de la mer du Nord, qui quitta cette perle de navire, faisant bonne route en Manche après avoir passé Douvres, raconta à quelques-uns de ses amis que le saphir avait comme second, pour ce voyage, un homme qui paraissait vraiment trop bon pour ce vieux Jones. « Il s'appelle Banter. Je me demande d'où il sort. Je ne l'ai jamais vu à bord d'aucun des navires que j'ai entrés ou sortis toutes ces années-ci. C'est un homme qu'on ne peut pas oublier. Vous ne l'oublieriez pas. Un fameux marin, d'ailleurs. Et ce vieux Jones ne va pas se casser la tête à son sujet. À moins que ce vieil imbécile ne prenne peur de lui, car ça n'a pas l'air d'un homme à se laisser malmener sans vous faire savoir ce qu'il pense de vous. Et c'est bien ce dont ce vieux Jones a le plus peur. Comme ce récit a pour but de relater une expérience spirite qui advint, non pas exactement au capitaine Jones lui-même, du moins à son navire, il n'est nul besoin d'insister sur les autres événements du voyage. Ce fut une traversée ordinaire, l'équipage était un équipage ordinaire, le temps fut un temps habituel. La façon tranquille, posée, qu'avait le second de commander la manœuvre, avait donné une allure calme à la vie du navire. Même au fort de plusieurs coups de vent, tout se passa calmement, pour ainsi dire. Un seul d'entre eux rendit la vie dure à tout l'équipage pendant 24 bonnes heures. Cela se passa en vue de la côte d'Afrique, une fois doublé le cap de Bonne-Espérance. Au plus fort de la tempête, le navire embarqua quelques paquets de mer sans grand mal, mais non sans réduire en miettes pas mal d'objets cassables dans l'office et dans les chambres d'officiers. M. Banter, qui avait gagné le respect de tous à bord, se trouva indignement traité par l'océan qui, défonçant la porte de sa chambre, comme l'eût fait un voleur, emporta plusieurs objets utiles et inonda les autres. Un peu plus tard, le même jour, l'agitation des mers du sud se mit à faire faire de telles embardées au saphir que les deux tiroirs placés sous la couchette de Banter partirent ensemble en éparpillant tout leur contenu. Ils auraient dû, cela va sans dire, être fermés à clé, et M. Banter ne pouvait s'en prendre qu'à lui de ce qui lui arrivait. Il aurait dû tourner la clé de chacun d'eux avant de sortir sur le pont. Sa consternation fut grande. Le steward, qui passait son temps à promener partout des faubert pour essayer de sécher l'office inondé, l'entendit s'écrier « Mon Dieu !» d'un ton d'épouvante et de consternation. Tout plongé qu'il fût dans son ouvrage, le steward n'en ressentit pas moins une vive sympathie pour le malheur du second. Le capitaine Jones éprouva une secrète satisfaction quand il apprit le dommage. À la vérité, il avait peur de son second, ainsi que le pilote s'était aventuré à le prédire, et il en avait peur pour la raison même que le dit pilote avait jugé vraisemblable. Le capitaine Jones, en conséquence, aurait beaucoup aimé tenir de façon ou d'autre à sa merci cet officier noir. Mais l'homme était irréprochable, aussi près qu'il est possible de la perfection absolue. Et le capitaine Jones en était fort ennuyé, tout en se félicitant de l'excellence de son officier. Il fit de grands frais de sociabilité avec lui, en partant de ce principe que plus vous êtes en bon terme avec quelqu'un, plus il vous est facile de le prendre en faute. Et parce qu'il voulait en outre avoir un auditeur pour ses récits de manifestations, d'apparitions, de fantômes et autres histoires de revenants. Il connaissait tout cela sur le bout du doigt, et il dévidait sans fin ces histoires d'une voix incolore en leur donnant un tour futile qui lui appartenait en propre. « J'aime vivre de façon sociable avec mes officiers », avait-il coutume de dire. Il y a des capitaines qui ouvrent à peine la bouche d'un bout à l'autre d'un voyage, de crainte de perdre un pouce de leur dignité. À quoi ça rime-t-il, cette situation supérieure qu'un homme peut avoir? Sa sociabilité était surtout à craindre pendant le quart de 6 à 8. Parce qu'il était de ces gens qui commencent à se réveiller vers le soir, et l'officier de quart pouvait difficilement invoquer une excuse pour quitter la dunette. On voyait le capitaine Jones grimper alors tout à coup la descente du carré, et trottinant vers le pauvre Banter en train d'arpenter la dunette, il lui décochait une proposition spirite du genre de celle-ci. Les esprits de l'un et l'autre sexe montrent en général beaucoup de raffinement, n'est-ce pas? À quoi Banter, levant la tête au favori noir, marmottait comme réponse « Je ne sais pas. »« Ah, c'est que vous ne voulez pas savoir. Vous êtes l'homme le plus obstiné et le plus prévenu que j'ai jamais rencontré, monsieur Banter. Je vous ai dit que vous pouviez emprunter n'importe quel livre de ma bibliothèque. Vous n'avez qu'à aller dans ma chambre prendre le volume qui vous plaira. » Et si Banter protestait qu'il était trop fatigué lorsqu'il n'était pas de quart pour trouver le temps de lire, Le capitaine John se mettait à sourire d'un air désagréable derrière son dos et déclarait qu'il y a naturellement des gens à qui il faut plus de sommeil qu'à d'autres pour se tenir dispo pour leur ouvrage. Si M. Banter craignait de ne pas être suffisamment réveillé pendant ses quarts, la nuit, c'était une autre affaire. « Mais il me semble que vous avez emprunté un roman au lieutenant l'autre jour, un ramassis de mensonges. » Le capitaine Jones poussait un soupir. « Je crois décidément, monsieur Banter, que vous n'avez aucune spiritualité. Voilà la chose. » On le voyait parfois apparaître sur le pont au milieu de la nuit, avec sa démarche bancale, l'air grotesque dans son pyjama. En l'apercevant, le pauvre Banter se tordait les mains à la dérobée et une sueur froide lui perlait au front. Après être resté quelque temps d'un air somnolent près de l'habitacle à se gratter de façon déplaisante, le capitaine Jones ne manquait pas de reprendre son seul sujet de conversation. Il discourait, par exemple, sur l'accroissement de moralité qu'on pouvait attendre d'un commerce intime avec les esprits. Les esprits, d'après le capitaine Jones, consentiraient à lier commerce avec les vivants, n'eût été l'incrédulité de la grande masse du genre humain. Il ne voudrait, pour sa part, rien avoir à faire avec quelqu'un qui douterait de son existence à lui, capitaine Jones. Pourquoi donc un esprit l'accepterait-il? C'était vraiment trop demandé. Il dévidait tout cela près de l'habitacle, tout en soufflant et en essayant, les bras croisés, d'atteindre ses omoplates. Puis, d'un ton sévère et somnolent, il déclarait « L'incrédulité, monsieur, est le malheur de notre temps. » Elle rejetait l'évidence fournie par le professeur Cranks et le journaliste. Elle s'opposait au témoignage des photographies, car le capitaine Jones croyait vraiment qu'on avait photographié certains esprits. Il avait lu des articles à ce sujet dans les journaux, et l'idée qu'on avait pu réaliser pareille chose l'avait grandement impressionné, vu son absence d'esprit critique. Panther me déclara par la suite que rien n'était plus étrange que ce petit bonhomme, nageant dans un pyjama trois fois trop grand pour lui, dansant positivement d'excitation au clair de lune près de la barre et montrant le poing à l'océan paisible. « des photographies !» répétait-il, d'une voix qui grinçait comme un gond rouillé. L'homme de barre, juste derrière lui, n'était pas sans s'inquiéter de le voir gesticuler ainsi, sans pouvoir comprendre exactement de quoi le capitaine discutait avec le second. Puis Jones, après s'être un peu calmé, reprenait « La plaque sensible ne peut tout de même pas mentir, non, monsieur. » Rien n'était vraiment plus comique que la conviction de ce ridicule petit bout d'homme, son ton dogmatique. Panther continuait à arpenter la dunette comme un lent et digne pendule. Il n'articulait pas un mot. Mais le pauvre garçon en avait lourd sur la conscience. Et se voir lancer ainsi à la tête ces fantômes imbéciles, en plus des terribles soucis qu'il avait, le rendait à moitié fou. Il se crut à plusieurs reprises au bord de la démence, car il ne pouvait s'empêcher d'entrevoir dans un demi-délire le capitaine John saisi par la peau du cou et lancé par-dessus la liste dans le sillage du navire. Ce qu'un marin jouissant de toutes ses facultés ne ferait pas à l'égard d'un chat ou de tout autre animal. Il croyait le voir dansant sur l'eau, petite tache noire qui disparaissait au loin derrière le navire, sur l'océan éclairé par la lune. Je ne pense pas que, même au pire moment, Panther souhaitât réellement noyer le capitaine Jones. Je crois que son imagination désordonnée aspirait simplement à couper court à l'inanité peuplée de fantômes qui caractérisait la conversation du capitaine. C'était tout de même un manque de contrôle, une forme dangereuse. Imaginez ce navire dans l'océan Indien, par une claire nuit tropicale, sa voilure pleine et immobile, la bordée de quart sur le pont hors de vue, et, sur la dunette inondée par la lune, cet imposant officier noir, arpentant le pont à pas dignes et mesurés, gardant un redoutable silence, et suivi de cette silhouette grotesquement minuscule en flanelle rayée, qui parlait d'une voix tour à tour grinçante et bourdonnante, d'un entretien particulier avec l'au-delà. J'en avais la chair de poule rien que d'y penser. Et parfois la folie du capitaine Jones prenait l'aspect d'un singulier esprit pratique. Comme ce serait utile si l'on pouvait décider les esprits à prendre un intérêt pratique aux affaires des vivants. Quelle aide ce serait, par exemple, pour la police dans la recherche des criminels? Le nombre des assassinats, en tout cas, en serait considérablement réduit, déclarait-il avec un air de profonde sagacité. Puis il s'abandonnait à un grotesque découragement. À quoi bon essayer de communiquer avec des gens sans foi et qui, vraisemblablement, mépriseraient les renseignements qu'on leur proposerait? Les esprits avaient leurs sentiments. Ils étaient en quelque sorte tout sentiment. Il était surpris toutefois de l'indulgence que les meurtriers rencontraient de la part de leurs victimes. C'était là pourtant une sorte d'apparition qu'aucun coupable n'oserait dédaigner. Peut-être que des meurtriers insoupçonnés, en dépit de leur incrédulité, n'échapperaient pas à la hantise. Ils n'iraient vraisemblablement pas le crier sur les toits, n'est-ce pas? Pour moi, poursuivait-il d'un ton de rancune geignarde, si jamais quelqu'un m'assassinait, je ne le laisserai pas en repos. Je le foudroierai, je le terrifierai. L'idée que le fantôme de son capitaine pourrait terrifier quelqu'un lui parut si absurde que le second, si peu enclin qu'il fût à la gaieté, ne put s'empêcher d'éclater d'un rire de lassitude. Et ce rire, qui répondait seul à un long et grave discours, ne fut pas sans froisser le capitaine Jones. « Que trouvez-vous donc là qui prête à rire de cet air supérieur, monsieur Bunter ? » grogna-t-il. « Des apparitions surnaturelles en ont terrifié de plus fort que vous. Vous ne me croyez pas assez d'âme pour faire un fantôme ?» Je crois que ce fut cette intonation désagréable qui fit que Bunter s'arrêta court et se retourna. « Je ne serais pas surpris, reprit avec colère ce maniaque du spiritisme, que vous fussiez de ces gens qui ne font pas plus de cas d'un homme que si c'était une bête. Vous seriez capable, j'en suis sûr, de dénier la possession d'une âme immortelle à votre propre père. » Là-dessus, Bunter, ennuyé au-delà du possible, et en outre exaspéré par son propre souci, perdit toute retenue. Marchant soudain sur le capitaine Jones et se penchant un peu pour le regarder bien en face, il lui dit d'une voix basse et ferme, « Vous ne savez pas ce dont un homme comme moi est capable. » Le capitaine rejeta la tête en arrière, mais fut trop suffoqué pour pouvoir bouger de place. Bunter se remit à marcher, et pendant un bon moment, son pas régulier et le clapotis de l'eau le long du bord troublèrent seul le silence qui planait sur la mer. Le capitaine Jones toussota d'un air gêné, et après s'être rapproché de la descente par mesure de prudence, retrouva assez de courage pour colorer sa retraite d'un acte d'autorité. « Pesez le cargue point tribord de la grand-voile et brassez carré, monsieur Bunter. Ne voyez-vous pas que nous sommes presque vent arrière ?» Bunter répondit aussitôt, « Oui, oui, capitaine. » Bien qu'il n'y eût pas la moindre nécessité de brasser et que le vent vint bien du travers. Tandis qu'il exécutait cet ordre, le capitaine Jones s'arrêta sur les marches de la descente en grommelant entre ses dents. « Ça vous arpente la dunette comme un amiral, et ça ne remarque même pas qu'il faut brasser. » Assez haut pour que l'homme de barre pût l'entendre. Et celui-ci le vit disparaître lentement à reculons. Une fois au pied de la descente, le capitaine Jones resta immobile et pensif. « C'est un sacré coquin avec tous ses grands airs. Je ne veux plus entendre parler de ses seconds à allure de gentleman. »